Welcome everybody, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez reconnu ma voix, c'est bien Juliana. Je suis heureuse de vous accueillir sur ce deuxième épisode du podcast À vos voix préparées. Aujourd'hui, j'accueille Théo Rotard, un beacheur de 19 ans qui est en équipe de France de beach volley. Donc à travers cet échange, nous allons voir comment Théo a réussi à trouver sa voie, mais également à trouver sa place, que ça soit dans sa famille, mais également dans un sport qui était très peu connu quand il a commencé. Mais au-delà de ça, maintenant, nous allons voir l'importance de la prise de conscience de la place que nous avons au sein d'une société. Mais avant toute chose, je vais le laisser se présenter, parce que qui de mieux que soi-même pour se présenter, à vrai dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne écoute, prenez soin de vous, à très vite.
Je me prénomme Théo, j'ai 19 ans, voilà, je suis en équipe de France de beach volley, je joue avec Arthur Canet, on s'entraîne à Montpellier toute l'année, à côté de ça je suis en école de commerce en 3e année, parcours anglophone, et j'ai grandi dans une famille très sportive, principalement de volleyeurs, voilà, moi j'ai choisi plutôt le beach.
Et donc tu es le dernier de la famille Rotard.
De la famille Rotard, voilà.
Bah justement, est-ce que ça, c'est pas trop difficile d'être le dernier d'une famille de sportifs? Est-ce que c'est tes parents qui t'ont fait connaître le volley et le beach volley? Comment ça s'est passé tes débuts, du coup?
Non, déjà, c'est pas difficile. Parce que ma famille, on est hyper proches, c'est hyper bienveillant. Forcément, ouais, j'ai connu grâce à ma famille. Étant donné que je suis de Martigues, du coup, et de la Couronne plus précisément, où il y a une grande plage où tous les Marseillais viennent l'été, je précise. Et il y a 3 terrains de beach. Du coup, depuis que je suis tout petit, je vois soit mes parents jouer à la plage, soit moi j'y vais et je joue avec des potes. Mais à part ça, mes parents n'ont pas voulu forcément qu'on fasse du volley et qu'on suive leur chemin. Ils voulaient qu'on fasse un sport qui nous plaît, ou même pas forcément un sport. On a fait de la musique aussi, j'ai fait du piano pendant 4 ans, tout ça. Ils voulaient juste qu'on soit épanouis. Du coup, j'ai quand même fait du tennis 2 ans, un petit peu de judo, ça c'était pour être avec mes potes, un peu de rugby. Et je continue toujours le volley ou le beach volley en parallèle. Et au bout d'un moment, fallait se spécialiser. J'ai vraiment choisi de rester sur un seul sport.
Du coup, ouais, donc t'as fait plusieurs sports durant ton enfance, le volley qui a quand même continué, puis t'as décidé de te spécialiser vraiment dans le beach volley.
Ouais.
Et ce choix n'a pas été trop dur pour toi, ou ça a été comme une évidence de choisir cette discipline-là?
Ça a été un peu difficile de choisir, parce que justement, en fait, c'était en 2019. J'étais avec l'équipe de France U17 en salle, et de là on avait fait du coup champion d'Europe moins de 17, et du coup à la rentrée, ça c'était l'été, à la rentrée ils me proposaient de rentrer au CNVB, mais à côté du coup je faisais le beach aussi avec Arthur, et en fait si j'allais au CNVB je devais couper complètement ou quasi complètement avec le beach, que vraiment le rythme d'entraînement, et puis pour éviter les blessures, tout ça, fallait être vraiment strict. Et du coup, j'en ai beaucoup discuté avec ma famille, j'ai réfléchi moi aussi. Et je me suis dit que pour l'instant, le beach, c'était la meilleure option. Du coup, je suis allé au Pôle Espoir de Montpellier de beach. Et puis après, j'ai vraiment senti que c'était le beach à fond. On a commencé à faire des bonnes performances avec Arthur. Je sentais qu'on avait un vrai potentiel là-dedans et qu'on était bien entouré. Du coup, je me suis dit que je vais me lancer à 100% dans le beach.
Donc, il y a une réflexion avec tes parents, tes proches, puis vraiment sur tes ressentis même avec le sport en lui-même et ton partenaire et l'environnement avec l'entraîneur, les kinés qui peuvent t'entourer au niveau du pôle espoir. Tu t'es vraiment senti bien, ça t'a permis de te lancer là-dedans, du coup.
Ouais, je pense que ça a facilité le choix aussi, l'entourage, d'être bien structuré. Donc, petit à petit, on a réussi à créer vraiment une bulle de haut niveau. Et c'est hyper rassurant, je trouve, d'être bien entouré, de se sentir libre de s'exprimer avec les personnes qui nous entourent.
Prenons quelques instants pour prendre du recul sur ce que Théo vient de nous dire. Vous vous imaginez, il avait aux alentours de 14-16 ans, Théo a dû faire un choix pour son avenir, il devait se spécialiser dans une discipline, le beach volley ou le volley. Et ce choix, à 14-15 ans, on peut se dire, ce n'est pas facile tout seul. C'est pour ça qu'il met vraiment l'accent sur l'appui de sa famille, de son entourage, de ses ressentis aussi, de comment ça se passait quand il était sur les terrains au beach volley, pour pouvoir finalement faire un choix. Ce que je cherche à vous montrer par l'expérience de Théo, entre guillemets, c'est simple. C'est d'essayer en fait de prendre davantage en considération votre vécu du terrain, votre expérience, vos émotions, votre ressenti, et tout cela de le mettre dans l'équation de votre raisonnement. ne pas trop laisser parler votre tête, mais aussi de prendre en considération ce que votre cœur vous dit et ce que vous avez vécu sur l'instant même.
Ce qui m'intéresse aussi, c'est la notion de passion. On dit que normalement, enfin en tout cas, comment je vois un sportif de niveau, il se doit d'être passionné par son sport. Est-ce que toi, ta passion pour le beach volley, elle était initiale ou elle s'est construite au fur et à mesure du temps ?
Non, moi je dirais qu'elle s'est construite. En fait, au début, c'était compliqué d'avoir vraiment cette passion. Enfin, je kiffais déjà jouer à la plage en général, mais passion dans le sens connaître tous les aspects de ce sport, les joueurs qui sont les meilleurs mondiaux. Parce que, en fait, c'était pas si développé que ça. Là, ça l'est déjà un peu plus aujourd'hui. Il n'y avait pas de structure en fait à l'époque quand moi je commençais. Mais sinon, là d'où je venais, c'était tu joues à la plage et tu connais pas trop le haut niveau, tout ça. Et après, j'ai commencé à apprendre ce que c'était un vrai recul de bloc, tous les aspects techniques, tout ça. Et découvrir le World Tour, donc les vrais joueurs pros. Et ouais, c'est construit au fur et à mesure la passion pour le sport et je kiffais de plus en plus.
Plus tu prenais du plaisir à faire cette pratique et tu te découvrais aussi, d'autres émotions, sensations et aussi ton corps dans ce sport-là.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce que, donc, au fur et à mesure du temps, parce que vous commencez à performer avec ton partenaire Arthur, je suppose que le beach volley prend de plus en plus de place dans ton quotidien.
Là, c'est sûr qu'elle a pris de plus en plus de place. Petit à petit, on a gravi les échelons. Forcément, après, ça prend plus de place parce que on se dit on a un vrai potentiel, donc on va le maximiser. Ce qui est important, c'est de garder quand même le plaisir du jeu et pas se dire « Ok, là, ça veut dire maintenant, je dois, comme j'ai gagné ça, tout le monde attend à ce que je gagne ça. » Donc, il faut trouver l'équilibre.
Est-ce que le fait qu'il peut y avoir plus en plus de pression au vu des tournois, l'envergure et tout, est-ce que ça peut impacter ce plaisir de jeu et cette passion pour une discipline qui est le beach volley ?
À certains moments, je pense que ça peut l'impacter. Enfin, peut-être pas la passion, ton jeu directement, la façon dont tu vas jouer et le plaisir que tu vas prendre. Parce que si tu joues avec un peu de pression et de peur, ça va impacter directement ton jeu. Et ça, du coup, des fois, on l'a déjà ressenti à certaines compètes ou certains matchs. Mais là, du coup, avec tout notre entourage et la prépa mentale, on a réussi à passer outre beaucoup facilement, je trouve. Genre maintenant, par exemple, on était à Doha il y a 2 semaines pour une qualif d'un élite, donc c'est le plus haut niveau. Et on n'avait vraiment pas plus de pression que ça parce que, bon, aussi, on n'avait pas grand-chose à perdre, mais on jouait pour se faire plaisir. Et en fait, je pense qu'en prenant du plaisir dans le jeu et en étant concentré, c'est là qu'on fait face à cette pression. C'est qu'on fait ce qu'on veut faire, ce qu'on a à faire. Et puis après, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on aura essayé. Et puis voilà, quoi.
Hep, je pense qu'une petite pause s'impose. En effet, je pense que là, le plus important qu'il y a à retenir, c'est prendre du plaisir à faire les choses. En fait, revenir à l'essence même de notre pratique, de notre activité, pour remettre du sens là où peut-être il n'y en a plus. Ce sens-là va nous permettre de comprendre pourquoi nous faisons les choses, mais également de nous dépasser pour atteindre notre objectif premier. Mais revenir au sens même de la chose pour prendre satisfaction et que l'action que nous sommes en train de faire ne soit pas un labeur pénible, mais un travail auquel nous prenons du plaisir à faire et qui fait sens pour nous. Parce que la vie n'est pas facile, parce que nous faisons au quotidien n'est pas facile, donc pourquoi ne pas le faire avec plaisir ? Pourquoi ne pas remettre du sens là où il n'y en a plus de sens ? Mais à partir de là, vous me diriez que c'est bien beau de prendre du plaisir et de mettre du sens dans toutes les activités que nous faisons, mais vous pouvez très bien me dire malgré tout cela, il se peut que je ressente du stress et de la pression de l'extérieur. Alors comment y faire face ? Je vous laisse découvrir quelles sont les choses que Théo a mis en place pour faire face au stress, à la pression qu'il peut avoir sur son milieu d'exercice.
Ouais, justement, on y travaille en faisant pas mal de méditation de pleine conscience. Et du coup, ce que j'arrive mieux à faire maintenant, c'est prendre conscience de cette pression et pas lutter contre elle, mais plutôt la laisser passer, me dire ok, je ressens un petit stress ou là je voilà, j'ai un truc en tête ou une pensée qui vient comme ça, parce qu'on peut pas, on n'est pas des machines, tu vois. Et du coup, essayer de ensuite se reconcentrer dans l'objectif,
ne pas en lutter contre elle, mais de l'accepter, de dire elle est là, ouais. On la laisse passer et on se reconcentre sur le moment présent.
C'est ça, parce que je pense justement, ça peut faire l'effet inverse, de lutter contre elle. Plus tu luttes contre elle, plus tu vas y penser, et ça va te faire réfléchir à d'autres choses, t'éloigner de ton objectif.
Ok. Et justement, en parlant du moment présent, c'est important d'être concentré dans ce moment présent-là, mais comment être focus sur ce moment au vu de, par exemple, du temps qui passe très vite, des compétitions que vous avez à faire tout le long de l'été, des cours que tu as à côté, comment de te dire, bon, bah là, je reste concentrée au vu du à côté qui est très imposant?
J'essaie de créer une petite bulle. Ça se fait assez naturellement. Je me dis, là, je suis à l'entraînement. Alors que tu vois, des fois, ça m'arrive. Genre, j'arrive à l'entraînement, j'ai plein de trucs en tête. Je me dis, après, je dois taffer ça pour les cours ou je dois aller faire ça. Mais il y a 1h30 d'entraînement. Je dis, dans tous les cas, je vais les faire, les 1h30. Donc, autant que je sois concentré au max sur ce que j'ai à faire là. Et de toute façon, je pourrais... Enfin, même si j'y pense, ça n'impactera pas ce que je dois faire après. Autant ne pas y penser et rester focus sur ce que je dois faire et sur la tâche à accomplir maintenant.
Tu arrives à bien t'organiser pour justement trouver ce temps-là pour tes cours, pour pouvoir réussir cette troisième année.
Ouais, c'est ça. Ouais. J'essaie de m'organiser au mieux. C'est important de prioriser ce qui est important sur le moment et ce qui est urgent aussi.
Tu jongles entre les deux, quoi.
Ouais.
Et justement, dans cette mathématique-là, comment tu arrives à faire rentrer dans cette équation de ta vie quotidienne entre le beach volley et les cours, comment tu arrives à faire rentrer du temps pour te retrouver, du temps pour toi?
Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, mais il y a toujours un petit temps déjà dans la journée où j'ai une heure ou 2 heures où je suis tranquille un peu à l'appart. Ou même je vais marcher dehors, je vais faire un tour, je me pose sur un banc, rive du lest, tu vois. Et ouais, il y a toujours un petit temps où j'essaie de réfléchir un peu à tout ça, où je suis un peu plus posé. Et puis sinon, souvent c'est le week-end, tu vois, le dimanche qui est libre. Et généralement, je rentre aussi le week-end chez mes parents, que ça me permet aussi de me retrouver moi, mais de retrouver aussi mes proches, mes amis d'enfance, mes parents, tout ça. Donc ça, c'est les principaux moments où j'ai le temps de déconnecter un peu avec les cours et le beat, quoi.
Et est-ce que ça te fait du bien, justement, de... Ça t'ennuie pas trop ces temps où tu fais rien, comme t'es beaucoup, beaucoup actif? Est-ce que tu te dis, bon, là, je m'embête un peu, quoi, sur mon banc?
Tu sais que t'avais dit ça, hein? Que j'avais du mal à rester en face. Un petit peu. En fait, c'est que j'ai toujours l'impression de perdre du temps si je reste là et je fais rien, même si je sais que c'est bien de me reposer. Mais quand je suis vraiment fatigué, par exemple, je sais qu'une sieste, ça va me faire du bien et qu'après, je vais être plus productif. Du coup, je fais une bonne sieste. Mais des fois, je m'en veux parce que je perds du temps sur TikTok, regarder la télé, tu vois. Et là, c'est pas productif. Mais sinon, j'arrive quand même mieux à prendre un peu de temps.
Prendre du temps pour soi. Il est vrai que, par ces mots, je tiens à souligner l'importance de faire pause, de prendre du temps pour soi, même si c'est pour regarder la télé, même si c'est pour être sur son téléphone. Il est vrai que ça serait mieux de lire ou encore de faire des exercices de respiration, de la méditation pour se retrouver seul avec soi-même. Mais ce temps pour soi, il n'est pas négligé. Qui plus est, quand on est constamment en action, même si nous ne sommes pas sportifs de haut niveau, notre corps est perpétuellement en action du matin au coucher. Notre corps, mais aussi notre cerveau. C'est pour cela que ce temps de pause n'est pas négligé pour pouvoir se retrouver, pour justement tenir dans la durée. Donc, prenez du temps pour vous. Et faites comme Théo. Reposez-vous et faites des siestes.
Et du coup, donc, tu as dit bientôt donc, les 20 ans. Est-ce que, 5 ans en arrière, tu aurais pensé qu'aujourd'hui, tu serais là où tu es?
J'ai jamais pensé à cette question, mais en vrai, non. Hein. Je pense pas. 5 ans en arrière, ça veut dire, ouais, j'avais 15 ans. Non, en vrai, je pense pas que je serais arrivé là. Comme je t'ai dit, ça allait hyper vite. Et Steph, il nous le rappelle aussi, que même pour lui, il pensait pas qu'on allait progresser aussi vite. Déjà, d'être en équipe de France, c'était un honneur, tu vois. Alors, quand on participait à nos premiers championnats d'Europe U18, donc ça, c'était en 2020, c'était déjà incroyable. Et puis là, on a fait plein de médailles aux championnats d'Europe et aux championnats du monde. Du coup, ça, je peux pas le prévoir. Il y a plein d'événements que je pensais pas vivre maintenant, mais plus tard. Et, mais après, c'est bien, forcément, de vivre ça hyper jeune. Et ça permet de prendre de l'expérience déjà en n'ayant que 19 ans. Donc non, je pensais pas, mais en tout cas, c'est cool.
Alors, et vous? Prenez 5 minutes et réfléchissez à cette question. 5 ans en arrière, pensez-vous être là? Vous êtes aujourd'hui.
Que du coup, je suppose que vous devez jouer avec Arthur contre des personnes que vous devez regarder avant devant votre télé. Quelles sensations et quelles émotions vous pouvez ressentir en jouant ces matchs-là?
C'est des émotions particulières. Il y a 2-3 matchs auxquels je pense. Par exemple, contre Herrera Gavira, donc c'est les Espagnols. Il y en a un qui a 42 ans et l'autre 35. Et du coup, celui qui a 42 ans, il a fait 5 fois les Jeux Olympiques. Et là, il est peut-être en qualif pour ses 6e Jeux à Paris. Et il a joué à 2004 contre Stéphane, contre notre coach. Donc c'est incroyable de jouer contre lui plusieurs fois et de se dire qu'on est rentré dans la cour des grands, tu vois. Et c'est pareil, je vais pas toutes les citer, mais il y a plein d'équipes. Molsorum, les Norvégiens, quand on va à Cape Town l'année dernière et qu'on les joue en quart de finale d'un élite, à 18 ans, on était en mode what the fuck, tu vois. Genre, de les voir en vrai, on les avait vus tout le temps à la télé, mais de les voir en vrai et qu'ils viennent, ils te check, ils disent good luck, tout ça, enfin, c'est une émotion particulière, quoi.
Bah, comment toi, en tout cas, tu fais pour te dire les étoiles plein les yeux, je suppose, et te dire bon, bah là, c'est ma place en quelque sorte, j'y suis là, c'est pas pour rien, c'est pas grâce à X ou Y personne, c'est grâce à ce que je peux produire, ce qu'avec mon partenaire on peut produire. Comment tu fais pour faire un pas de côté sur ces émotions et de te concentrer, te dire bah là j'ai autant ma place que eux, quoi?
Ouais, bah au début c'est compliqué parce que tu te dis que t'es là pour les jouer, mais enfin, la première fois que tu les joues, tu te dis pas je suis là pour les gagner. Enfin, nous c'était comme ça parce qu'on a... on était déjà hyper étonnés d'en être arrivé là. Et c'était vraiment que du kiff. On s'est dit, là, c'est que du bonus. Faut vraiment qu'on donne tout. Mais tu donnes tout en sachant que dans 98% des cas, tu ne gagneras pas. Et petit à petit, à force d'avoir d'expérience, de progresser aussi techniquement, mentalement et physiquement, on se dit, bah, c'est à nous d'évincer ces gars-là. Ils ont fait leur carrière. Maintenant, c'est à nous de, tu vois, c'est notre place, tu vois. Donc, justement, quand on les a rejoués après, par exemple, dans le showroom au championnat d'Europe, là, on était venus vraiment pour les gagner. On était prêts à vouloir les gagner. Et on a fait un meilleur match, on les a poussés au tie-break, tout ça. Donc je pense un début à tout. Et puis après, il faut prendre conscience que... faut te préparer à la victoire, en fait. Prendre conscience que tu peux les battre et que c'est là où tu dois aller. Donc, et pas être en mode spectateur. Donc, c'est une prise de conscience aussi à faire.
Donc ça, c'était surtout du temps pour faire cette prise de conscience. Comment... Et l'expérience aussi, comment cette transition, elle s'est faite comme ça, en fait.
Ouais, bah, c'est... du temps, de la remise en question, un peu d'analyse personnelle. Aussi, il faut, tu vois, filtrer un peu ses émotions, parce qu'on vit beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'émotions qui arrivent en même temps. Pendant un match, tu peux avoir plein d'émotions différentes. Donc juste le temps que ça redescende et que, justement, que tu t'y réfléchisses et que t'en parles aussi. Je pense que ça prend un peu de temps, mais une fois que t'as la prise de conscience, après, t'es plus libéré et c'est plus simple, mais... ça arrive pas d'un coup, tu vois.
Oui, il n'y a pas de baguette magique pour se dire ouais. Bah là, je passe de ça à ça. Ça serait trop facile sinon.
Oui, bah tu vois, c'est comme le Beachmaster qu'on fait depuis 2019, je crois. C'était vraiment, c'est l'exemple parfait de crescendo. C'était tous les ans. Et au début, on y va pour jouer un peu. On n'avait jamais fait ça. C'était le premier Beach Pro Tour. Bon, on perd les deux matchs. L'année d'après, on perd les deux matchs, mais on fait un 7-22-20. Après, on va au tie break ou je sais plus quoi. L'année d'après, on va en quart. Après, on va en finale et après, on le gagne.
Okay,
donc, après, on a progressé, évidemment, entre-temps, mais il y a aussi l'envie de faire toujours mieux après chaque tournoi, quoi.
Je me permets de couper un petit peu la lecture parce que je pense qu'il est important de prendre une petite pause de réflexion. C'est très enrichissant ce que nous apporte Théo parce qu'il nous apporte deux choses. Au niveau de la prise de conscience, de notre rôle, de notre position au sein d'une société. Lui, il parle du coup de l'évolution que lui et son partenaire ont eu au sein du beach volley international. Ils avaient 15-16 ans, ils entraient dans le circuit international, puis au fur et à mesure des tournois, des années, ils ont progressé et du coup ils ont commencé à très bien performer et se retrouvent maintenant à un très bon niveau mondial et du coup à rencontrer des personnes qu'ils regardaient devant leur télévision. Là aujourd'hui, ils les côtoient. Ça peut être déjà pour le cerveau un choc de ne pas trop comprendre ce qu'il se passe. Donc déjà, tu me barres, comme dit, de pouvoir être spectateur, de se dire ben, juste être là pour jouer, mais sans vraiment de conviction. Puis, ben, de par ses expériences, il y a eu une transition de fait, une prise de conscience de fait, en disant ben, si nous sommes là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas le destin, c'était parce qu'on le mérite et on le doit de par notre parcours, de par nos performances que nous avons accomplies, de par qui nous sommes. Du coup, nous avons notre place et donc, on se doit de les jouer, mais au-delà,
d'être peut-être un peu plus incisif et de pouvoir peut-être les gagner. Donc tout un changement au niveau de sa conception, de sa place au sein, de leur place au sein de cette compétition-là et au niveau international. Et je pense qu'il y a un rapport à faire avec le monde lambda, si je puis dire ça comme ça. En effet, il se peut que parfois, de se questionner en disant « mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je mérite ma place ?» On peut côtoyer des personnes que jamais on n'aurait pu, en faisant écho à la question d'avant, 5 ans d'arrière, les côtoyer. Cette transition, cette évolution que nous pouvons faire jour après jour, année après année, eh bien parfois il faut prendre du temps de recul et de s'apercevoir du travail que l'on a accompli et du chemin qu'on a parcouru pour se dire « bah d'accord, si je suis là, c'est pour une bonne raison, c'est parce que j'ai des compétences, j'ai des qualités et parce que je performe à mon niveau. » Et c'est important de s'en apercevoir et pour ne pas tomber dans ce qu'on peut nommer de syndrome de l'imposteur, par exemple, qui peut se définir comme une conviction persistante que le succès que nous avons est dû au hasard et non au mérite et non au travail accompli. C'est quelque chose qui met en doute qui nous sommes et qui souligne peut-être une possible incompétence, mais non, pas du tout. Donc cette prise de conscience-là, mais surtout une prise de recul, c'est surtout très important. Et dans un second temps, là, dans son exemple qu'il donne avec cette compétition qui est le Beachmaster à Montpellier, on voit par cela que le travail et la patience sont des atouts principaux en fait pour pouvoir tenir dans la durée et pour pouvoir un jour arriver à nos objectifs principaux. Et ça, il ne faut vraiment pas oublier que la patience et le temps sont nos meilleurs alliés. Même si on peut parfois croire que le temps passe vite et qu'on n'a pas le temps et que le temps est notre ennemi, au contraire. Quand on pense ça, ça peut être naturel et c'est tout à fait normal par ailleurs. Mais il faut vraiment que le temps, nous le prenions comme ami plutôt que comme notre ennemi. Donc, en définitive, en quelques mots, c'est prendre du recul pour pouvoir permettre une prise de conscience de ce que l'on vit, de ce que l'on est, de ce que l'on a accompli. Et pour cela, en fait, c'est le temps, le travail et avoir la patience d'eux. Mais aussi le temps de prendre du recul sur ce que nous sommes en train de vivre pour pouvoir davantage vivre le moment présent. En parlant notamment du ressenti et du vécu corporel, il m'a paru intéressant d'aborder avec Théo la question de la blessure. En effet, cette thématique montre à quel point le sportif en fait n'est pas un super-héros, mais tout simplement un homme ou une femme qui peut parfois être blessé. Et de par cet exemple que Théo va nous partager, nous allons montrer son cheminement, son parcours suite à une blessure qui est arrivée lors d'une compétition et comment il a pu se reprendre et passer outre ce qu'il s'est passé sans a priori. Je vous laisse l'écouter.
Du coup, c'était à l'été 2022, donc pas l'été dernier, celui d'avant. Ouais, on était au championnat d'Europe moins de 20 ans, du coup, en Turquie. Et on fait vraiment une compète de ouf. On gagne tous nos matchs 2-0 jusqu'à la demi-finale. La demi-finale, on était mené, je crois, 19-17 au deuxième set. Et ils avaient gagné le premier set, les Tchèques. Et ils avaient quasiment balle de match, quoi. Et on est revenu, on a gagné au tie-break, donc c'était ouf. Et du coup, on est en finale contre des Autrichiens. Et puis, c'était un gros match aussi. Et au tie-break, on menait 6-3. Et puis là, sur un bloc, l'Autrichien il attaque, moi je suis au bloc, et puis je prends le ballon dans le petit doigt, quoi. Et du coup, je me fais une luxation ouverte du petit doigt. Donc déjà, j'étais hyper sous le choc, mais j'avais pas forcément mal, en fait. Du coup, je le montre à l'arbitre, je le montre à Arthur. En fait, je sais pas quoi faire, je le montre à... Et ils sont tous choqués, tu vois, parce que c'était pas beau à voir. Et du coup, temps mort médical, et puis je pleure. Je fais que chialer, mais même pas de douleur, quoi. Et je me suis dit, putain, je vais pas pouvoir reprendre et tout, je suis deg et tout, que ça arrive maintenant, tu vois. Et du coup, bah forcément, le médecin de la compète a dit que je pouvais pas reprendre. Du coup, forfait sur la finale. Donc déjà, c'est hyper frustrant que tu fais tout un parcours, tu te prépares pour cette compète, pour avoir un titre, champion d'Europe en moins de 20. Donc c'était hyper frustrant et je m'en suis voulu, mais ça a mis un peu de temps à ce que je le digère.
Parce que ouais, la blessure, ça met encore plus en avant que vous n'êtes pas des robots. Et là, bah, ça a été brutal parce que du coup, arrêt du match et du coup, vous perdez cette place, peut-être de la première place en finale. Mais ouais, c'est la blessure, ça arrive à tout un chacun, et là, c'est arrivé peut-être au mauvais moment,
Ouais, c'est
malheureusement.
ça. C'était frustrant en fait que ça arrive à ce moment-là. Et en plus, c'était impuissant quoi. Donc, c'est en 2022 quand je me suis fait le petit doigt en finale. C'était contre les Autrichiens, donc Tim et Timo. Et l'année dernière, c'était notre deuxième année en moins de 20 ans. On se retrouve au championnat d'Europe en finale contre les mêmes joueurs. On les rejoint en finale et on gagne du coup 2-7-0 sans blessure. Cool, l'anecdote elle est sympa parce que c'est un peu une revanche.
Et est-ce que tu avais un petit peu d'appréhension justement de jouer ce match-là ou pas spécialement?
Oui, franchement, c'était un match spécial. Hein. J'avais de l'appréhension. Pas de l'appréhension comme quoi je vais me blesser, tu vois. Mais l'appréhension de dire, putain, c'est une revanche limite sur la vie, tu vois. Genre, enfin, c'est le destin, quoi. Et non, c'était cool.
Par l'exemple et l'anecdote que nous a fourni Théo, il nous montre que rien n'est acté et quelque chose qui se passe, on est d'accord, on ne peut pas revenir dessus, mais c'est à nous de construire notre futur et de nous construire et d'apprendre de nos expériences, des événements, pour revenir encore plus fort et pour prendre une revanche sur la vie. Rien n'est acté, tout est à construire. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre échange et j'aimerais le conclure par deux questions signatures.
La première question, c'est si tu devais être une citation, laquelle serais-tu?
Une citation, ah, on est tous exceptionnels, on a juste du mal à démarrer. Pas mal, hein?
Pas mal. Elle est de. C'est toi qui.
Non, c'est
C'est.
un rappeur qui l'a dit, enfin c'est
D'accord.
Zamdan, qu'on a tous un truc en nous, un truc qui nous anime, une passion, ou qui nous fait kiffer. Et que des fois on se lance pas parce qu'on a peur, on a de l'appréhension, on a le regard des autres, on a le regard de nos proches. Mais que si on se lançait, bah, ce serait peut-être exceptionnel, quoi.
Du coup, la dernière question, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite?
Bah, tu peux me souhaiter de continuer ce que je fais en prenant un maximum de plaisir et voilà, d'atteindre tous mes objectifs sportifs mais aussi extra-sportifs dans ma vie. Et voilà.